C'est une semaine décisive pour le dollar américain sur le forex, tant sur le plan fondamental que sur le plan technique. Explication. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 20 septembre 2023, jour J pour la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, jour J pour la conférence de presse de Monsieur Jay Powell et pour la mise à jour des anticipations macroéconomiques de la Fed à un moment où le dollar américain, ce fameux dollar US, dont le rebond a surpris tout le monde, un rebond que nous accompagnons ici chaque mercredi, un rebond qui fait du dollar depuis 2 mois la devise la plus performante du marché d'échange, à contre-courant, à 180 degrés de ce que fut sa faiblesse entre octobre 2022 et le milieu du mois de juillet 2023. Alors voilà la question que tout le monde se pose, en tout cas la question que se posent ceux qui s'intéressent au marché d'échange, ceux qui tradent le marché d'échange, ceux qui tradent les paires majeures du forex, le dollar, le GBP/USD, le dollar yen, l'USD/CHF. Une seule question doit tarauder votre esprit, doit chatouiller votre intellect. Ce rebond du dollar américain est-il un rebond technique dans le cadre d'une tendance baissière ou le réengagement de ce qui fut à l'époque, en 2021 et une partie de 2022, un puissant mouvement haussier du dollar qui avait vu, rappelez-vous, l'euro-dollar tomber à 0,95. Corrélation inversée euro-dollar-dollar-US. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le dollar américain face à un panier de devises monte, l'euro-dollar se replie. Alors, c'est ce sujet que je vais traiter. Vous savez, je vais être bref. Le dollar américain est revenu au contact des 106 points. 105,50, 106. C'est, mais vous le savez, mieux que moi sûrement, le pivot technique qui décidera de la tendance de fin d'année de ce bon vieux greenback. Franchir 106 points à la hausse, sous l'influence d'une Fed archi hawkish, d'une Fed qui nous dirait en l'état, en soi, l'économie américaine croît encore à d'une façon modérée, pas de récession, mais l'inflation redevient hors de contrôle. Cette inflation qui est en rebond dans sa version nominale, eu égard à la reprise du prix du pétrole, qui lui aussi, c'est ça, cette semaine, vous avez 2 niveaux techniques majeurs à surveiller. C'est une semaine de banque centrale. Enfin bon, la Fed mercredi, la BOE jeudi, la BNS, oui, la Banque nationale, c'est aussi jeudi. D'ailleurs, est-ce que nous aurons la dernière hausse de taux de la BNS ou un statu quo? Je reparlerai la semaine prochaine de ce CHF. Et puis vendredi, la Banque centrale du Japon, l'USD/Yen, l'USD/Yen. Je vous signale que la semaine dernière, la Banque centrale du Japon et la Banque centrale de Chine sont intervenues pour limiter l'envolée haussière des taux USD/CNY pour la Chine et USD/JPY pour le Japon. En clair, certaines banques centrales commencent à s'énerver de cette puissance de l'Ouest qui met leur monnaie locale sous pression. C'est pas bon, ça génère des sorties de capitaux. Donc il y a tout ça qui se joue cette semaine. Moi, je suis convaincu, et c'est pour ça que j'ai voulu refaire cette vidéo, convaincu que c'est cette semaine, que c'est à la clôture de cette semaine, de vendredi, après toutes les banques centrales, que nous allons savoir avoir la réponse à la question que j'ai posée en début de vidéo. Et puis, les carburants de ce rebond du dollar américain, les connaissez-vous? Numéro 1. Oui, vous venez de le dire. Oui, le rebond du prix du pétrole. Oui, très bien. Le rebond des indices d'inflation. Très bien. Numéro 2. Peut-être que la Fed, à la différence de la BCE, vous savez, la semaine dernière, la Banque centrale européenne de Madame Christine Lagarde a dit, nous avons peut-être atteint le taux terminal. On peut en douter, eu égard à la vigueur de l'inflation au sein de la zone euro, en comparaison des États-Unis. Parlons pas du Royaume-Uni. La Suisse, c'est très différent. La Suisse, il n'y a pas d'inflation. Les prix sont overall globalement plus élevés qu'en France, par exemple. Donc voilà. Mais on peut douter de ça. La Fed, imaginez que, vous savez, la seule chose qui compte cette semaine, au-delà de la décision de politique monétaire, au-delà de la mise à jour des projections macroéconomiques, alors si, on va surtout regarder les projections macroéconomiques en matière d'inflation, notamment le PCE, car lors de la décision de juin dernier, la Fed était encore assez optimiste. Donc là, on va voir comment elle intègre le rebond estival du prix du pétrole. Rebond du prix du pétrole qui est complètement artificiel, je vous le rappelle, qui ne représente sur rien de fondamental, hormis l'Arabie Saoudite et un peu la Russie qui ont juste tourné à gauche le robinet, c'est tout. Quand un pays majeur comme l'Arabie Saoudite passe en un an de 11 millions de barils par jour en termes de production à là, moins de 8,8, forcément, le prix remonte. Il manipule complètement le marché. Bon, mais à part ça, les autres composantes de l'inflation, toujours en baisse. Oui, supérieure à la cible de la Fed, mais toujours en baisse. Alors c'est l'enjeu, voilà, c'est sûr que si le pétrole devait franchir 93,50, peut-être qu'il y aurait une contagion à l'inflation sous-jacente. On verra bien. Donc on va travailler tout ça. Je vous rappelle aussi que dans cette question du dollar américain, vous savez, le dollar n'existe que parce qu'il y a des devises, des autres devises qui cotent par rapport à lui. Une monnaie n'existe pas par elle-même. La valeur d'une monnaie, c'est par rapport à une autre. D'accord? Alors, on crée des indices devises pour avoir leur valeur intrinsèque, mais si vous prenez le DXY, ce n'est qu'une moyenne de l'euro-dollar, de l'USD-Yen, du GBP, du GBP-USD, de l'USD-CHF, de l'USD-CAD. Bon, avec chacun un poids relatif. En gros, c'est essentiellement l'euro-dollar, l'USD-Yen et le GBP-USD. C'est pourquoi il faut qu'on en parle. Parce que cette semaine, il y a aussi la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon et la BNS. Donc, voilà. Alors, c'est parti, les amis, on attaque le dollar. Alors, dollar US, c'est la semaine décisive pour la tendance de fin d'année du greenback, le fameux billet vert. Et là, vous avez une belle photo qui s'en va de Monsieur Jérôme Powell, qui va donc parler ce mercredi. Le plan, je viens de vous le donner avant, donc je le fais afficher ici. Et puis on attaque, allez, c'est parti. Une semaine de banque centrale décisive pour le dollar américain. Fed, Bank of England, Bank of Japan, Banque nationale suisse. La Réserve fédérale dévoile ce mercredi 20 septembre à 20h une nouvelle décision de politique monétaire accompagnée de la mise à jour de ses projections macroéconomiques et d'une conférence de presse de M. Jay Powell. Le marché semble convaincu, peut-être à tort, que la Fed va marquer une pause en maintenant son taux directeur à 5,50. Une partie du marché considère même que potentiellement la Fed aurait atteint son taux terminal. Cette conviction de statu quo du marché pourrait être présomptueuse au regard du rebond récent des différentes mesures de l'inflation et de la résilience macroéconomique des États-Unis. Les projections de la Fed vont décider de la tendance de fin d'année du dollar américain sur le marché d'échange. En fait, le critère décisif, si vous voulez, le critère décisif, qu'est-ce que ce sera? Le critère décisif, en l'état, ce critère décisif pour M. Powell, maintenant on n'en est plus. Oui, alors. Moi, ma conviction, c'est que le taux terminal, c'est 5,50, 5,75 max. 6, je n'y crois pas. Bon. Vous avez vu la mise à jour des statistiques de l'immobilier résidentiel américain la semaine dernière? Notamment un indice qui est très suivi, qui est le NAHB, qui mesure un peu la confiance des promoteurs immobiliers. Ça repart à la baisse et les promoteurs immobiliers nous disent que ce sont les taux de crédit immobilier qui sont en train de casser la demande. C'est bon, c'est bon, on a notre dose avec les taux d'intérêt. C'est bon, je ne parle pas de la Suisse, encore une fois, je parle vraiment des États-Unis et de la zone euro. Bon, les futurs souscripteurs de crédit immobilier, même les consommateurs à la consommation qui font des crédits à la consommation, bon, ils ont compris que voilà, ça ne sert à rien de démonter davantage. Ça casse déjà la dynamique de la demande. Donc maintenant, pour vraiment casser l'inflation, ce n'est pas forcément renchérir encore les coûts de financement, c'est plutôt de maintenir ces nouveaux coûts de financement sur une très longue période. Et c'est comme ça qu'on va assécher la demande et tordre le cou à l'inflation. Mais à votre avis, pourquoi l'Arabie Saoudite est aussi agressive à fermer le robinet? C'est parce que sans ça, là, le baril est à 40 dollars. J'en suis certain. Si là les prix sont remontés tout en haut à la pompe, c'est parce qu'il y a une contrainte d'offre exceptionnelle. D'ailleurs, il y a eu encore récemment une déclaration du ministre saoudien de l'énergie qui est très marrante. Il botte en touche. Nous travaillons à la stabilité du marché du pétrole pour un approvisionnement fluide. Bon, à chaque fois qu'il y a une question sur le prix, il botte en touche. Ils sont marrants. Oui, ils sont gagnants, très bien. Ok, le prix a remonté, ils ont un peu baissé leur production de 15%, mais le prix a fait plus de 15% de hausse. Donc voilà, mais à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est moi je pense que... Alors, tout ça pour vous rappeler quand même une chose, c'est que là, ce qui va être très important, je vous ai remis ici un certain nombre d'informations, voilà, parce qu'on parle quand même du dollar américain et le pétrole est lié. Vous savez, ce que va décider M. Powell, qui est ici, il est beau, voilà, c'est le fameux DXY, le dollar américain face à un panier de devises. C'est quand même le sujet que nous traitons, le dollar américain ici face à un panier de devises, voilà, qui a rebondi. Alors d'ailleurs, voilà, effectivement, si vous prenez la performance des monnaies sur le Forex depuis le début de l'été, la performance des monnaies sur le Forex depuis le début de l'été, oui, depuis 3 mois, hein, ici, donc 3 mois, c'est bien le dollar américain qui est leader. Donc DXY, hein, vous savez, c'est le code du dollar américain face à un panier de devises. Et donc, nous, la question ici qu'on se pose, vous avez ici un graphique qui expose à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires du dollar américain face à un panier de devises, et à droite en journalier, voilà, ce rebond ici, ce rebond, alors qui tranche avec cette tendance baissière qui s'est déployée entre octobre 2022 et voilà. Est-ce simplement un rebond dans le cadre d'une tendance baissière ou est-ce que l'on a repris cette tendance haussière précédente? C'est ça la question qu'on se pose. Et donc, vous voyez bien une chose, c'est que ce dollar américain va se comporter en fonction d'abord des fondamentaux et en particulier du positionnement de la Réserve fédérale des États-Unis. Si la Fed nous propose ce mercredi, à travers les mots que va choisir M. Jay Powell, un positionnement hawkish, restrictif, eh bien, il est probable que le dollar américain dépasse les 106 points. En cas de statu quo et une Fed qui ouvrirait à des perspectives plus accommodantes, en rappelant qu'elle a confiance dans sa capacité, avec ses taux actuels, à ramener l'inflation sous-jacente sous 2%. Une Fed qui serait en mode statu quo pourrait maintenir le DXY, le dollar américain face à un panier de devises, entre 100 points et 105 points. Et au contraire, alors si vraiment on a une Fed hyper accommodante, mais ça franchement, j'y crois pas trop, mais si vraiment on a une réserve fédérale hyper accommodante, nous avons vraiment confiance que l'inflation soit vaincue ou on commence à avoir des mauvaises statistiques du côté du marché du travail. Attention, bon, dans ces cas-là, effectivement, là, le dollar chuterait, mais je suis pas certain. Vous savez, on est quand même encore en termes d'inflation et même en écartant le rebond du prix du pétrole, on est quand même encore largement au-dessus de ce que vise la Fed. Donc, l'inflation nominale, elle est encore entre 3,5 et 4. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est pas forcément gagné. Alors, donc, voilà, c'est en tout cas ce qui est important, ce qui est le plus important à suivre. Alors, justement, l'inflation plus le dynamisme des services. Vous avez ici, je vous ai décrit ici, donc, les deux carburants de hausse de dollar américain. Ces deux carburants de hausse du dollar américain sont-ils bientôt épuisés? Alors, le sujet. Après avoir été la monnaie la plus faible du marché d'échange entre le mois d'octobre 2022 et le milieu du mois de juillet 2023, le dollar américain a développé un rebond estival de forte amplitude et occupe désormais la première place du classement sur les 3 derniers mois. Cette force retrouvée du dollar américain pose la question de son horizon de temps potentiel, donc ça, vous avez compris. S'agit-il d'un rebond technique dans une tendance baissière de fond ou au contraire de la reprise de la tendance haussière de 2021-2022? La réponse se trouve dans la pérennité des sources fondamentales du rebond de l'USD depuis 3 mois. Source première du rebond de l'USD, le rebond de l'inflation en version nominale, forgé sur le rebond du prix du baril de pétrole, lui-même porté par l'OPEP+, je vous rappelle qu'il y a un pivot technique à 93,50. Et enfin, la source seconde du rebond du dollar américain, c'est la résilience de l'économie américaine dans le secteur des services. Alors d'ailleurs, sur ce sujet, cette semaine, après les banques centrales, car oui, on a beaucoup parlé des banques centrales, et parce que c'est une semaine chargée en banques centrales, vous avez un autre temps fort. Vendredi, vous avez la mise à jour d'un indice macroéconomique hyper respecté par le marché, vous le connaissez, c'est le PMI, le Purchasing Manager Index. Dans le secteur manufacturier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on est sous 50, c'est en contraction depuis de nombreux mois. Dans le secteur des services, aux États-Unis, on est au-dessus de 50. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'inflation des services, elle, reste encore à des niveaux de 5 ou 6%. Et finalement, la Fed pourra crier victoire lorsqu'elle aura brisé la dynamique inflationniste dans le secteur des services. Et pour ça, le marché aimerait voir, c'est un peu moche, mais aimerait voir une contraction de cette diversité des activités de services. Et donc, vous avez vendredi la mise à jour du PMI des services pour les États-Unis, en version préliminaire pour le mois de septembre, et le consensus, il est qu'on est proche des 50. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment aussi, ça c'est un des temps forts à suivre sur l'ensemble de la semaine. Alors tout d'abord, oui, plusieurs choses que je voulais vous remontrer. Oui, donc alors, voilà, ça c'est, suivez-le vraiment, hein, il sera mis à jour vendredi, du coup après le bal des banques centrales, et voilà, constatez sa dynamique actuellement qui se replie. Voilà, si jamais il devait s'inscrire sous 50, ce serait vraiment un facteur de baisse pour le dollar américain qui pourrait donc avoir lieu après la Fed. Ça, c'est donc à suivre. Alors ensuite, oui, ce que je voulais vous remontrer, c'est cette fameuse inflation. Alors, cette fameuse inflation qui est en rebond ici. Là, vous avez ici les courbes en vert et en bleu de l'inflation nominale. Oui, c'est en petit rebond. Mais regardez au-dessus, vous avez en violet et en marron l'inflation sous-jacente qui, elle, continue de baisser. Alors certes, elles sont encore largement au-dessus de l'objectif de la Fed. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, sans le rebond du prix du pétrole, je vais ici vous montrer le rebond du prix du pétrole, eh bien, ce qui est intéressant, en fait, la vraie question, c'est de savoir à partir de quel seuil le rebond du prix du pétrole peut représenter un risque de contagion à l'inflation sous-jacente. Ici, vous avez, je vous remontre ici dans le PowerPoint, ici, vous avez la contribution du pétrole au rebond du taux d'inflation au rythme annuel. Et là, vous avez la ligne de zéro. Regardez bien. Là, vous avez la ligne de zéro. Et on vient de repasser au-dessus de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, en rythme annuel, si on compare le prix du pétrole entre septembre 2023 et septembre 2022, eh bien, on se situe à nouveau au-dessus. Donc, c'est là où ça commence à devenir dangereux. C'est-à-dire que si le pétrole devait casser, regardez, c'était la ligne au coup d'un double top, la ligne de tendance, je peux même y ajouter les enseignements du système Ishimoku, c'est la partie haute du nuage, tout le monde a bien compris qu'il existe un risque d'explosion haussière en cas de dépassement des 93,50. Donc ça, c'est un des seuils décisifs à suivre sur l'ensemble de la semaine, et le lien sera maximal avec le dollar, puisque justement, cela contribue au rebond de l'inflation nominale. Mais bon, voilà. Pour le moment, l'inflation sous-jacente, elle, reste en tendance baissière. Alors, d'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est que dans ce débat sur le dollar américain face à un panier de devises, vous avez de l'euro, de la livre sterling, du franc suisse, du yen. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que le dollar américain va franchir les fameux 106 points ? Si oui, c'est l'explosion haussière à 110, le dollar retournerait sur ses sommets d'octobre 2022, où va-t-il échouer? Étant donné que cette semaine, il n'y a pas que la Fed, et je fais écho à ce qu'a dit la semaine dernière la Banque Centrale Européenne, qui a potentiellement laissé entendre qu'elle aurait atteint son taux terminal. Cette semaine, vous avez la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. Et donc, pour que le dollar, imaginons un scénario qui verrait le dollar rejeté sous les 106 points. Si le dollar doit rejeter sous les 106 points, il faut, cela ne peut être dû qu'à un rebond de l'euro-dollar ou à une forte chute de l'USD-Yen ou à un rebond du GBP-USD. Car si le GBP-USD rebondit, c'est bien l'USD qui baisse. Donc, et ce que je vais vous montrer, c'est que là, euro-dollar, GBP-USD, USD-Yen sont en contact de seuils techniques très importants en cette semaine qui voient leur banque centrale s'exprimer. Donc, gardons bien à l'esprit que les tendances sur le marché d'échange flottant sont relatives. Ainsi, la valeur du dollar US se définit par rapport aux autres monnaies de manière absolue dans un indice devise. L'indice devise dollar US porte le code mnémonique DXY et sa composition est la suivante. Et c'est donc bien ça que je voulais vous rappeler. C'est que dans ce fameux DXY qui nous intéresse, vous avez 57% d'euro-dollar, 13,6% d'USD-Yen, 11,9% de GBP-USD, du CAD, du SEC et l'USD-CHF pèse un peu moins. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut suivre. La BCE, je vous rappelle, pour l'euro, la BCE pourrait avoir atteint son taux terminal la semaine dernière, pic ultime de sa campagne de resserrement monétaire. Mais pour envisager que le dollar américain rejette sous cet énorme pivot technique, il n'a aucune chance de rejeter si l'euro-dollar ne tient pas support. Et donc c'est ça aussi où c'est une semaine très intéressante, même si la BCE est déjà passée, le marché, vous savez, il y a certains membres de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui associe les banques centrales nationales des pays de la zone euro, qui disent non, il manque encore une hausse de taux. Et après, comment ça va jouer si la BCE et si la Fed ont atteint chacune leur taux terminal? Ce qui va compter, c'est la durée avant pivot. Et donc, si par exemple, c'est la Fed qui pivote la première, ça fera rebondir l'euro dollar, ça fera baisser le dollar US. Mais si au contraire, c'est la BCE qui pivote la première, ce sera le contraire. Et cette question de durée avant pivot, ce sera la question de la durée pour ramener l'inflation. Quelle est la zone qui va ramener l'inflation le plus vite à 2%, à votre avis? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus les États-Unis qui vont le faire. Le taux d'inflation de la zone euro, il est encore une fois et demie à deux fois supérieur, en fonction des pays, à celui des États-Unis. Ne parlons pas de l'inflation britannique. Le GBP USD revient sur un support à proximité des 1,23. L'inflation britannique, elle est encore à 8 ou 9%. Moi, je vous garantis que la Banque d'Angleterre va encore monter ses taux. Elle sera fixée, on va voir. Il y a une décision de politique monétaire cette semaine. Mais pour que le dollar américain rejette sous cette résistance, il faut que l'euro-dollar tienne cette zone support. Il faut que le GBP USD parvienne, lui, à s'accrocher à ce niveau des 1,23$, qui est 61,8% de retracement de toute la hausse ici entre 1,18 et 1,33. Sinon, derrière, s'il casse les 1,23$, c'est la chute à 1,20. Et là, effectivement, et alors vous avez bien sûr la Banque Centrale du Japon. Je vous rappelle que la Banque Centrale du Japon est intervenue la semaine dernière pour renchérir, pour stopper la chute de sa devise face au yen, face au dollar US. Lorsque l'USD-Yen monte, c'est bien le yen qui chute face au dollar US. Et donc là, vendredi matin, il va falloir vraiment suivre ça de près. Vendredi matin, vous avez une décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Japon. Son taux directeur, alors le taux directeur de la BOJ est encore négatif, il est à -0,1. Et voilà, imaginez qu'il passe à zéro, ou imaginez que la BOJ commence à ouvrir le fait que voilà, elle pourrait normaliser sa politique monétaire. Là, vous aurez une chute de l'USD/Yen et ça va contribuer à faire échouer le dollar américain sous les 106 points. Donc voilà, ce que je voulais vous rappeler dans cette vidéo, c'est que cette semaine, pour le dollar américain, oui, vous avez la Fed, mais il faut aussi être très attentif aux décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre jeudi et de la Banque centrale du Japon ce vendredi. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir suivre de très près. Et puis, vous savez, regardez par exemple, selon True Fashion, la valeur actuelle encore de l'inflation au Royaume-Uni. Là, vous avez un tableau qui compare les taux d'intérêt des différentes banques centrales. Le taux de la Banque Centrale du Japon est encore à -0,1. Il suffirait qu'on passe à 0, qu'on normalise, pour refaire baisser l'USD/Yen. Et encore une fois, là, je vous remonte comment se calcule le dollar américain face à un panier de devises. Donc voilà, il faut absolument suivre ça de très près. Alors maintenant, on termine par des considérations techniques, la question que tout le monde se pose. Voilà, c'est le dollar va-t-il échouer à 106 points? Comme je vous ai montré en début de vidéo, selon le DXY qui est très suivi dans les salles de marché, et si vous tradez le forex, si vous tradez l'euro dollar, il faut faire l'analyse technique du DXY. Bon, franchir 106 points, c'est vraiment le signal d'une Fed qui sera encore très restrictive. Finalement, un scénario, un entre-deux, ce serait très bien, ça mettrait tout le monde d'accord, ça ne créerait pas de stress pour le marché, de par exemple, d'osciller entre 100 et 106 points. La Fed et Jérôme Powell n'iront pas dans le sens de ils ont plus, et c'est fini, cette priorité de ne pas stresser le marché. Non, non, ils veulent vaincre l'inflation. Ce qui pourrait les calmer, ce serait une dégradation du marché du travail, comme j'ai déjà pu l'expliquer, ou du secteur des services. C'est pourquoi, ce vendredi, surveillez vraiment le PMI des services aux États-Unis. S'il devait dépasser, basculer sous 50, ce sera un facteur de baisse pour le dollar américain face à un panier de devises. Donc le solde capital des 106 points, alors que les institutionnels sont à la croisée des chemins, le sujet, le rebond du DXY de 99,5 points à 105,5 points, donc je vous parle bien ici du rebond du dollar américain, le rebond du dollar américain qui a eu lieu ici entre mi-juillet et à nos jours, entre donc 99,5 et 105 points, voilà, ce rebond du dollar américain, est-ce qu'il s'inscrit encore dans une construction graphique baissière? Alors, nous allons répondre à l'aide d'une combinaison d'outils d'analyse technique, ainsi qu'à l'aide des données de positionnement institutionnel sur les contrats à terme et les ETF dont le sous-jacent est le dollar américain. Sur le plan de l'Ishimoku, la tendance n'est pas renversée à la hausse tant que le marché se situe sous le nuage en zone hebdomadaire. Sur le plan fractal, l'hypothèse d'une structure en flat étendu, expanded flat, est encore possible, et c'est une structure baissière, tant que le marché reste sous la résistance à 106 points. Sur le plan chartiste, c'est pareil, en fait, de manière générale. Et c'est ce que montrent aussi les fondamentaux, mais c'est ce que décrit l'analyse technique. Le franchissement des 106 points serait, pour le DXY, un signal haussier extrême qui pourrait ramener le dollar US au contact de ses records de 2022. Et vous allez voir que du côté du positionnement institutionnel, via les futurs, les options, les ETF, eh bien les institutionnels basculent progressivement en territoire bullish. Alors là, ici, vous savez, moi j'utilise, pour le positionnement institutionnel, j'utilise les données du rapport Commitment of Traders, de la CFTC. Et donc vous avez le positionnement des institutionnels sur un certain nombre de taux de change, et vous avez bien compris que c'est essentiellement l'euro-dollar. Alors ce que j'avais pu vous montrer pour l'euro-dollar chez les asset managers, c'est que la position nette a réengagé une tendance baissière, on pouvait même voir ici une épaule tête-épaule, les positions short augmentent, elles augmentent ici comme au printemps 2021, et au printemps 2021, ben c'était là, c'était le point de départ de la hausse du dollar US. Donc ça, on se dit que c'est peut-être ça le mouvement dominant et pas celui-là. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et le pivot est ici, donc on y est. Effectivement, et lorsque vous regardez maintenant ce que je viens de vous montrer sur l'euro-dollar, lorsque vous regardez l'ensemble, les données face à 10 monnaies, donc là vous avez en fait les données cumulées face à 10 monnaies, les institutionnels, enfin les traders de hedge fund, attention, les spéculateurs, ce sont les traders de hedge fund, viennent de repasser marginalement bullish face à une dizaine de monnaies, alors que face à uniquement l'euro-dollar, hein, les traders de hedge fund, eh bien, ils sont encore plutôt à l'achat de l'euro-dollar. Donc, c'est très ambigu. Si je prends ici les inflows et les outflows sur le plus gros ETF américain qui joue la hausse du dollar US, il n'y a pas non plus d'inflow. Ce fonds joue la hausse du dollar. Et vous avez les inflows, les entrées de capitaux en vert, et quand c'est rouge, il y a même des sorties de capitaux. Donc, c'est pas massif. C'est pas, voilà, il n'y a pas, comme au printemps 2021, où il y avait eu beaucoup d'inflows. Donc, c'est comme si, en tout cas, d'un point de vue des ETF, beaucoup doutent de la capacité du dollar à accélérer. Mais en même temps, certains hedge funds commencent à jouer le scénario d'une cassure technique haussière. Donc, ça se joue vraiment ici, c'est le cluster technique. Tout passe au contact ici de ces 106 points. Et d'une certaine façon, plus que jamais, Seigneur Powell, Dieu Jérôme Powell, Dieu de la bourse, hein, rassure, c'est le thème de rentrée. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo avec ce titre un peu tapageur, semaine décisive pour le dollar américain, parce que je pense qu'elle l'est, liée à toutes ces décisions de banque centrale, qui coïncident pile poil à un moment où nous sommes au contact à la fois le dollar et le pétrole d'un seuil technique majeur. La suite des événements, après tous les chiffres de cette semaine, et puis je vais bien sûr vous faire la synthèse de tout ça lors de la prochaine édition du Fast and Forex. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, encore une fois, merci de mettre un petit like, c'est ça qui nous permet de tenir dans la durée. Merci à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut.